9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Sabrina Cassa.
Bonjour.
Merci d'être venue ce dimanche matin nous présenter Un Noël chez les Émouis. C'est le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Emmanuel Colas. Je vais vous présenter d'abord Sabrina Cassa, vous êtes journaliste, autrice, je viens de le dire. C'est le deuxième roman, j'avais eu le plaisir de vous recevoir déjà pour le premier roman qui s'appelait Magic Babelwed. Voilà. Deuxième roman qui vient de paraître donc, qui est une comédie, me dit la présentation de votre ouvrage, comédie familiale sur le vivre ensemble, on y reviendra justement. Mais peut-être, quand je rappelle que vous êtes journaliste, on va peut-être, avant d'entrer dans toute cette histoire, hein, c'est un roman que je trouve moi succulent et qui raconte la vie d'une famille algérienne sous la houlette de la mère, hein, Mima Ounessa, pour la nommer, avec ses enfants. Elle a 4 enfants, Lila et Rania, ses fils Aïssa et Mokhtar, et la petite fille Eva. Voilà, tous ces personnages qui vont s'imbriquer dans les chapitres, racontant leur vie, leur rapport les uns les autres, avec la grand-mère pour Eva, mais aussi les frères et sœurs, la fratrie se rencontrent comme ça et se livrent au fil des chapitres. Être journaliste est un exercice particulier d'écriture. Être autrice, voilà, de fiction romanesque, c'est un autre exercice. Comment on passe de l'un à l'autre dans votre écriture, Sabrina Cassa? Il y a le temps de la littérature, puis le temps du journalisme. Il y a eu le temps du journalisme, en tout cas.
Oui, il y a eu le temps du journalisme. En fait, donc je suis journaliste depuis 25 ans. Et pendant très longtemps, j'écrivais des articles, des reportages, des enquêtes, des portraits. Ça avait aussi donné lieu à un livre qui s'appelle Nos ancêtres les Chimamis.
Oui, on vous doit ce très beau livre, effectivement. J'ai oublié de le citer. Qui est paru il y a quelques années déjà, Nos ancêtres les Chimamis.
2006, ouais. Ouais. C'était des portraits d'hommes et de femmes d'Algérie qui étaient venus en France après les Trente Glorieuses. Et donc voilà, j'ai eu toute cette période où, j'ai envie de dire, j'étais une journaliste classique et avec un peu mes obsessions, les rapports nord-sud et bien sûr les Algériens en France, et l'histoire de
cette immigration algérienne et des rapports.
Voilà. Et ensuite, en 2005, j'ai intégré l'équipe de Mediapart, mais en tant que journaliste, mais plus journaliste éditrice. Je m'occupe des contributions extérieures de Mediapart. Et donc, voilà, c'est un travail très prenant, mais où j'écris peu, en fait. J'édite beaucoup. Je fais beaucoup de sélections pour la Une, mais j'écris peu. Et donc, quand j'écris de la fiction. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai...
C'est pour ça que je qualifie les écritures. C'est des exercices différents, des exercices de style, comme on dit, différents, d'écrire... un reportage, d'écrire un roman. Ça prend plus de temps d'écrire un roman?
Oui, ouais. Ça prend plus de temps parce que on rapporte pas des faits.
On les imagine.
On les imagine. Et puis, le journalisme, c'est... On relate des événements. Dans la littérature, on est plus dans les plis des individus, dans ce qui les motive, dans leurs intentions, dans ce qui est dit et dans ce qui n'est pas dit. Donc c'est un tout autre rapport au réel, en fait.
Bien sûr. Et donc dans cet imaginaire de personnages qui sont la famille qui se réunit, Un Noël chez les Émouris, c'est le titre de votre ouvrage, je le rappelle, Sabrina Cassa. Vous racontez donc l'histoire de cette famille, et tout au long de votre livre, on a la figure centrale, romanesque, qui est la mère, et après il y a la fratrie, je l'ai dit. Comment vous avez construit cette fratrie, et qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message dans cette rencontre? C'est l'histoire d'une famille algérienne en France, c'est l'histoire de sa quête d'identité pour certaines dans le roman. C'est repères identitaires, où sont-ils? Va s'interroger Eva, la petite fille, par exemple. Le rapport à la langue, il y a tout ça qui... Et puis le rapport à chacun, chacune de la fratrie, hein, qui vont évoquer leur histoire personnelle. Hein. On va voilà, il y a un couple mixte, il y a un couple de femmes, il y a un couple, voilà, et puis après il y a le quotidien. J'allais presque dire c'est la tranche de vie dans la réalité vraiment quoi. Même si c'est imaginé, mais on est dans des tranches de vie qui sur lesquelles on peut se retrouver.
Oui, alors je pense que ce qui m'a la première impulsion, c'est en fait de faire une description d'une famille algérienne en échappant aux clichés et aux catégories qui sont très réductrices. Parce que dans le débat public aujourd'hui, on a vraiment on nous tend un miroir qui est très réducteur et très mortifère. Et qui élimine toute la complexité en fait de nos existences. Donc étrangement, c'est en allant vers la fiction que j'ai l'impression de pouvoir aborder davantage la vérité que je trouve que aujourd'hui dans les médias et surtout à la télé où on nous propose que des caricatures et que des fantasmes. Donc au départ, donc le livre démarre avec Mima Ounessa et c'est vraiment le premier chapitre que j'ai écrit de cette matriarche qui est très complexe.
Vous plantez le décor entre guillemets parce qu'on y reviendra peut-être. Quand je dis décor, ça veut dire que moi quand j'ai lu le livre, j'ai pensé à cinéma, mais on en parlera peut-être. Donc c'est dans le premier chapitre, c'est elle que vous posez avec son histoire.
Voilà et je la voulais complexe. Je voulais qu'elle soit ni trop sympathique, ni antipathique non plus, parce que bien sûr j'ai beaucoup d'affection pour Mima Ounessa et je pense que ceux qui lisent
elle est très attachante.
Elle est très attachante, mais elle est complexe. Elle est pas, j'ai pas voulu qu'elle soit non plus trop douce, trop gentille. C'est pas la mama dans laquelle voilà vers laquelle on a envie de se blottir. Non, elle a sa réalité comme chaque personnage, j'ai envie de dire. Donc oui, la question donc déjà de nos identités complexes et puis la question de la transmission bien sûr. C'est pour ça qu'après après Mima Ounessa, pour chaque personnage, il y a un chapitre qui est consacré.
Qui lui est consacré, voilà.
Et où on voit à la fois la réalité de chacun et puis le rapport à la mère et à la fratrie.
Et à la fratrie, absolument. Voilà. Et tout ça c'est assez bien construit d'ailleurs parce que quand c'est le chapitre Lila, j'allais dire, et ensuite le chapitre Rania, je le dis pas dans l'ordre, mais il y a aussi Aïssa et Mokhtar qui vont parler. Il y a aussi leur histoire qui se croise à eux, leur histoire, mais leur relation, quelquefois conflictuelle, quelquefois d'une fratrie normale entre guillemets, mais il y a la vie qui est racontée les uns les autres. C'est intéressant ça parce que souvent, comme vous le disiez, de manière médiatique, on parle peu comme ça d'une vraie famille, enfin d'une famille avec toute cette complexité. Et comment vous choisissez un petit peu ça dans l'écriture romanesque, dans le romanesque justement, le fait qu'ils soient dans telle ou telle situation, les personnages?
Je sais pas si on choisit vraiment les personnages.
Non, mais comment vous les voulez? Vous
avez, ouais. Ouais, s'invite un petit peu dans la danse. En tout cas, ce que je voulais, c'est que on soit pas dans des profils types que on voit généralement à la télé. Donc il y en a un, il est délinquant, l'autre il est terroriste, il galère. Voilà, je les voulais plutôt dans la classe moyenne. Je trouve, et c'est beaucoup plus représentatif en fait de la réalité sociologique des franco-algériens aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, bah bien sûr, il y a cette réalité économique qui est très difficile, mais
il y a des réussites, il y a des classes moyennes,
l'autre il est infirmier, l'autre il est commerçant, voilà. Et cette réalité là, on en parle
jamais.
J'ai envie de dire, il faut être un terroriste, un délinquant ou un voleur, et là on peut apparaître dans l'actualité ou dans le débat public. Sinon, toute cette réalité-là, qui est majoritaire, elle n'a pas le droit de citer. Donc, voilà.
Sabrina Cassa, il n'aura pas échappé aux auditeurs, aux auditrices, en disant votre nom à propos d'écrire un livre qui s'appelle « À Noël chez les Aymouris », je le rappelle, qui est question d'une famille algérienne, vous l'avez dit, que c'est des personnages que vous connaissez, finalement. Vous créez des personnages et dans cette histoire de personnages, on peut retrouver on peut retrouver une sensibilité que vous connaissez dans votre entourage ou ils sortent de votre imaginaire seulement? Quand on est algérien, on connaît des Algériens. Et puis quand on écrit, peut-être que ça vous parle. Il y a des gens que vous connaissez qui peuvent être là. Et...
Alors, Mima ou Nessa, bien entendu, sans aucun doute, elle est inspirée. Ma mère m'a beaucoup inspirée pour ce personnage. Même si Mima Onessa est très différente de ma mère. Ma mère était restauratrice, hein, donc elle n'était pas du tout recluse chez elle.
Elle était restauratrice.
Oui, elle a tenu un restaurant pendant très longtemps. Donc ma mère, c'est les Grenoblois la connaissent très bien. Tout le monde est venu manger le couscous chez ma mère. Donc voilà, elle n'était pas du tout enfermée chez elle à Belleville. Et puis elle a les cheveux courts. J'ai me suis beaucoup inspirée d'elle. Voilà. Mais après, c'est pas la réplique exacte de ma mère. Chez nous, nous sommes six, hein, on n'est pas quatre, il y a pas de jumeaux. J'ai aucune belle-sœur convertie à l'islam et Mehboula. Donc voilà, j'ai quand même réinventé une famille. Je peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui correspond à Lila dans mon entourage ou Rania ou Mokhtar ou Aïssa. Mais par contre, les expériences qu'ils traversent, les connais moi intimement, soit.
Oui, elles peuvent nous parler en tout cas.
Oui, où ça a été vécu par les uns et les autres, mais. C'est un peu une tchèque-chouka, quoi. C'est pas des personnages issus du réel, quoi.
On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche Sabrina Cassay. Nous parlons de Un Noël chez les Emouris. Ce livre vient de paraître aux éditions Emmanuel Colas.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous dans ce Voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Sabrina Cassa. Nous parlons de Un Noël chez les Emouris. Son livre vient de paraître aux éditions Emmanuel Colas. Alors on a évoqué la figure importante dès le premier chapitre qui se pose dans l'ouverture du livre. C'est celui de Mima Onessa, qui est la mère de cette fratrie que j'ai énumérée tout à l'heure. On reviendra sur les uns les autres. Peut-être que dans toute sa volonté, Mima Onessa, elle a pour ses enfants une belle vie, en tout cas une vie où ils seront bien en France, et elle s'interroge beaucoup sur le rapport qu'elle a avec les uns les autres dans la société française, et elle, c'est succulent ce passage que vous nous lirez, Sabrina Cassaz, et vraiment cette volonté de dire que voilà, on doit exister ici, il y a peut-être des choses à affirmer, et elle les dit joliment. Mima Ounessa. On vous écoute, Sabrina Kassab, pour nous parler de comment elle voit le meilleur pour ses enfants en France.
Alors, Mima Ounessa, c'est une assez bonne analyste de la société française et du conflit qui oppose la France à l'Algérie, ou qui a opposé la France à l'Algérie. Donc, je trouve qu'elle est assez incroyable parce que elle ne veut pas transmettre le problème à ses enfants. Donc, elle assume la responsabilité de cette difficulté à être à la fois algérienne et française. Et elle l'endosse complètement, et elle libère, enfin en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé, elle libère ses enfants en leur disant, bon voilà, la partie n'est pas simple, moi je suis dans une situation impossible, en tant qu'Algérienne vivant en France.
Mais depuis 40 ans.
Voilà, depuis 40 ans, et c'est pour ça qu'elle est recluse chez elle. Et en revanche, ses enfants, elle leur dit, maintenant vous, vous êtes français, donc... ne portez pas ce poids-là, je le porte, je prends la responsabilité de ce poids, et vous, défendez-vous avec vos armes.
Voilà. Alors, elle n'est pas sociologue, mais elle dit bien les choses. Vous nous les racontez, ce qu'elle nous dit?
Je vous lis un passage.
Vous nous lisez un passage.
Vous allez voir, Mima est un assez bon institut de sondage, on s'en rend compte aujourd'hui après le premier tour. Mima avait ainsi préparé ses enfants à trouver leur place, naturellement, sans chercher à prendre leur revanche sur qui que ce soit. Par contre, sortir de son appartement était pour elle un supplice. L'espace public l'angoissait. Chaque fois qu'elle devait s'y résoudre, elle se sentait vide. Depuis ses premiers jours en France, elle avait classé les Français en trois catégories. D'abord, les racistes agressifs, ceux qui vous parlent mal et vous regardent de haut. Ceux-là, Mima ne les connaissait que trop bien. Elle en avait vu une ribambelle en Algérie. Et prenait un malin plaisir à leur parler calmement dans son meilleur français, comme si elle s'adressait à des enfants désaxés. Les pauvres n'avaient rien compris à l'histoire. Ils étaient plus à plaindre qu'autre chose. Et quand un de ces malheureux allait trop loin, comme le jour où un chauffeur de bus avait accueilli un de ses passagers coiffé d'un turban, visiblement fraîchement débarqué du bled, par un « Regardez un peu ce bico, ça doit aller les moukers avec lui hein. », elle s'était approchée du conducteur pour acheter son billet et l'avait interpellée à voix haute. « C'est bien de parler avec nos mots. Encore faut-il comprendre d'où ils viennent. Bico, voyez-vous, cela vient de l'arbi, l'arabe. Et comme on dit chez nous, l'homme qui veut te rabaisser souffre d'être en dessous. Alors, soit, la nature ne vous a pas gâté, mais soyez gentils, souffrez en silence et roulez droit. » La deuxième catégorie, peut-être la pire, c'était les condescendants. Ceux qui vous traitent comme si vous étiez misérable et stupide. Chez la pédiatre, même après plusieurs rendez-vous, ça donnait « Madame Zemmoury, je vais vous parler lentement pour que vous compreniez comment vous occuper des petits. D'accord ?» Face à cette espèce-là, Mima se mordait la langue jusqu'au sang, tellement elle avait envie de les insulter. Mais elle se taisait. Seul un mépris encore plus profond pouvait répondre à leur mépris. Son message passait alors par un regard à bout portant. Enfin, heureusement, il existait une troisième catégorie de Français. Les gens bien. Ceux-là, elle les repérait au premier coup d'œil. Ils étaient simples et directs. Et même s'ils ne savaient pas tout ce qui s'était passé en Algérie, ils avaient compris l'essentiel. Ils n'avaient aucune raison de se croire au-dessus d'elle.
Mais voilà, une belle leçon d'observation, effectivement. Et puis, on n'a pas fait sociologie. Elle n'a pas fait sociologie, elle a fait justement de l'humain et de la réalité de ce qu'elle vit aussi. Hein. Quand elle dit ça, c'est aussi ce qu'elle vit en France. Juste un mot encore pour s'arrêter sur cette figure importante dans votre livre, Mima Ounessa. C'est une femme qui est arrivée en France avec son mari, mais qu'elle a perdu assez tôt, et donc elle a élevé seule aussi ses enfants. Donc il fallait aussi une force pour cette femme d'élever la fratrie. Et c'est important de le souligner parce que c'est pas simple dans une société, dans la société française, d'être une femme seule qui va élever ses enfants, encore aujourd'hui d'ailleurs, encore plus sans doute à cette époque et quand on est une femme migrante. Peut-être s'arrêter sur la fratrie. Vous nous les présentez, Lila d'abord, et puis voilà, on verra ensuite comment on défile dans les livres, sans tout raconter, tout dévoiler sur ce Noël chez les Émouries, parce qu'il faut laisser aux auditeurs auditrices le soin d'aller vers la lecture. Mais je l'ai rappelé tout à l'heure, les chapitres présentent vraiment les uns et les autres dans leur singularité, avec une certaine audace aussi, hein, dans l'écriture, un certain humour. Et donc, voilà, on va rentrer dans les personnages. L'une est photographe, l'autre est... Parlez-nous un peu de la fratrie, comment...
Alors, le premier personnage qui apparaît après Mima Onessa, c'est Lila.
Lila, oui.
Lila, donc, c'est sa plus jeune fille, la dernière de la fratrie. Et c'est celle qui est née en France, alors que tous les autres, on comprend qu'ils sont nés en Algérie. Et on va dire celle qui, comme on dit, est la plus intégrée. Elle est photographe, ça fonctionne assez bien pour elle, mais elle souffre d'un manque de reconnaissance dans sa famille. On comprend assez vite, par petite touche, que en fait, elle vit avec une femme et que elle est en train d'explorer une nouvelle sexualité, alors qu'elle était avec un homme. Voilà, elle a été très déçue et donc elle vit avec cette femme. Et Mima Onessa le comprend assez rapidement. Donc, j'avais envie d'aborder cette question de l'homosexualité dans les familles maghrébines où on l'accepte, mais où il faut pas trop le montrer.
Voilà.
Donc, on l'accepte tant que c'est pas trop dit. Donc, voilà, c'est cette situation-là.
Parce que cela existe dans la réalité. Donc, voilà. On est dans une histoire.
Mais on va voir que à la fin, ce non-dit va quand même
ressurgir.
Éclater et il va venir sur la table de ce dîner de Noël, comme tous les autres non-dits, à vrai dire. Donc il y a Lila, sa sœur Rania, qui est elle aussi est une figure de femme forte. Elle est DRH, mais voilà, elle vit en couple, mais elle est plutôt malheureuse dans son couple. C'est ce qu'on va découvrir, mariée avec un certain Rachid, qui est très occupé lui aussi. C'était la jumelle de Mokhtar. Alors Mokhtar, en fait, c'est un peu le chouchou à sa maman, qui passait son temps à regarder des documentaires animaliers avec sa mère. Docteur Freud s'étrangle, j'imagine, en voyant ça, et qui est marié donc avec Caroline, qui est un personnage aussi qui me faisait beaucoup rire, donc qui est converti à l'islam. Et en fait, l'islam est présent qu'à travers Caroline,
voilà,
quoi,
oui.
Avec une manière un peu caricaturale. Mais bon, je trouvais que c'était assez drôle que ce soit elle qui porte la question de l'islam dans cette famille. Et puis, il y a le grand frère, donc Aïssa. Qui est le grand taiseux. Et on va découvrir à travers lui, en fait, la question du racisme en France. Et voilà, il est très malheureux. Il était marié avec une Française. Son couple est en train de se défaire. Et leur fille vit avec Mima. Donc, c'est elle qui s'appelle Eva. Et qui est très, très proche de Mima. Voilà, dans cet appartement, en fait, on va l'explorer à travers leur relation entre Mima et Eva.
Voilà, il y a Mima et Eva. Et puis après, il y a le frère et la sœur. Enfin, voilà. Et puis ça va s'opérer au moment des préparatifs de Noël, mais c'est toujours intéressant de comprendre un peu comment s'opèrent ces rencontres, et puis on va les retrouver dans un instant.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك ملقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك ملقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي ايه سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا اه يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا علي هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي اسمعهم لحبيب يعرف حوالي هي يا سينا فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي هي زينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا آه يا زينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Sabrina Kassai, l'invitée de ce Voix au chapitre ce dimanche, à Noël chez les Émouris, c'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux éditions Emmanuel Colas. Alors on est entré dans les personnages de ce succulent roman, plein d'humour et de tendresse aussi, parce qu'ils sont attachants, hein, c'est cette fratrie et Mima Ounessa, mais on va pas trop raconter, on va donner envie aux auditeurs, auditrices de lire le livre, donc on ne racontera pas la fin. Mais en revanche, on peut poursuivre, si vous le voulez bien, Sabrina Kassa, autour de cette identité que vont quand même chercher d'une certaine manière au travers la petite fille, Eva, qui va interroger sa grand-mère sur sa langue, même quand elle danse, même quand elle est Algérie, dans son appartement avec elle. C'est une, je trouve qu'il y a une belle écriture là dans le rapport qu'a Eva avec sa grand-mère par rapport à son identité qu'elle veut chercher sur la langue, sur la danse, sur tout ça.
Oui, j'aimais beaucoup cette relation entre la grand-mère et la petite fille qui est un peu libérée de tout, on va dire de toutes les tensions liées à
au passé.
Voilà, au passé, et puis à la légitimité d'être français ou algérien, ou voilà. Et donc le rapport est un peu plus pur. Comme souvent entre les grands-parents et les petits-enfants, la transmission est en fait un peu plus facile.
On a sauté une génération.
Voilà. On a pris du recul. Dans d'autres histoires, j'avais lu et entendu à plusieurs reprises ceux qui sont sortis des camps, par exemple, ils ont eu plus de facilité à parler à leurs petits-enfants que à leurs parents, ou tous les gens qui ont des histoires un peu traumatiques à transmettre. Voilà, il faut que ça saute une génération pour que ça se fasse plus naturellement. Et aussi la jeune Eva, elle est très curieuse. Elle a envie de savoir pourquoi il y a aussi ce regard qui se porte sur elle. Alors elle est blanche, elle est une bonne élève. On sait qu'elle est au lycée Hélène Boucher, qu'elle fait de la danse classique et tout. Mais
on lui renvoie quelquefois.
Il y a eu les attentats et on lui renvoie. Elle a les cheveux frisés, donc on lui renvoie en fait le fait qu'elle est pas comme les autres, et elle comprend pas en fait pourquoi on lui renvoie. On voit cette image-là. Donc, elle se tourne vers sa grand-mère pour savoir d'où vient cette différence. Donc, d'où c'est les scènes où elle l'interroge sur son passé, elle l'interroge sur c'est quoi cette culture qu'on ne veut pas voir, qui n'a pas de droit de citer en France, cette langue qu'il faut cacher. Et donc, voilà, ça passe à travers. Et la danse.
Elles vont danser ensemble et voilà. Ça va vraiment la rassurer d'une certaine manière, Eva, que sa grand-mère lui puisse enfin lui parler, parce qu'elle lui aura jamais parlé.
Voilà, on sent qu'il y a le lien est déjà là, mais que maintenant il faut mettre des mots dessus. Voilà.
Et dans la fratrie, quand effectivement dans le déroulement du livre, on l'a rappelé tout à l'heure, chaque sœur et frère ont un chapitre et on les découvre au travers leur histoire, hein, leur singularité. Et puis après, il y a leur rencontre entre eux, à la fois qui sont pas conflictuels vraiment, mais sur des désaccords, par exemple. Dans une fratrie, on peut pas tous s'entendre tous ensemble. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a le chouchou, il y a tout ça. Même si on sait que les mères les aiment tous, mais elles ont, voilà. Elles préfèrent les garçons. En tout cas, c'est ce qui se passe dans Un Noël chez les Émouries, on préfère le garçon. Donc c'est intéressant aussi de voir aussi comment vous écrivez justement les relations dans la fratrie.
Oui, ben j'ai voulu m'amuser un peu de ça parce que je pense que c'est pas que chez les Maghrébins hein, que les mamans ont un attachement, elles ont à leur fils qui est plus fort, et qu'il y a forcément un peu de rivalité entre la mère et la fille, et c'est normal jusqu'à un certain point, quoi. Et on voit que les deux sœurs réagissent pas de la même façon. Rania, était un peu malheureuse de voir que sa mère
s'occupait pas d'elle, de sa vie.
Voilà, qu'elle était plus attentive à Mokhtar, qui est en plus son jumeau. Donc là, vraiment, c'est vraiment difficile à accepter. Mais elle l'accepte et prend une distance vis-à-vis de sa mère, pour se protéger en fait de cette jalousie, mais elle est aussi très proche de sa mère. Mais voilà, ça lui et du coup le personnage est un peu raide comme ça. Lila, elle se tape encore la tête contre le mur parce qu'elle veut pas accepter ça, que ses frères soient attirent davantage l'attention de la mère que elle. Et donc j'explore un petit peu ce malaise là.
Et comment elle réagit, Mima Ounessa, quand elle voit un peu les filles et les garçons autour de la table pour raconter un peu cette situation-là? Qu'est-ce que vous lui faites dire
En fait, on voit dès le début qu'elle voit bien qu'il y a un malaise, elle le perçoit, mais voilà, elle a pas vraiment envie de le régler. Et ce qui va se passer pendant ce repas de Noël, c'est que parce qu'elle est dans le contrôle aussi, Mima. C'est une matriarche.
Ah oui, oui. C'est pas... Elle distribue les tâches. C'est assez joli, ça aussi.
Voilà,
les oignons, chef. Les carottes, les machins. Chacune va faire... et chacun aussi vont faire...
Oui, bah, le garçon, pas trop. Mais,
pas trop, mais...
surtout les filles. Donc voilà, elle est dans le contrôle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que rien, bien sûr, va se passer comme prévu. Et ça va obliger, en fait, chacun à dévoiler... ses secrets.
Des secrets, voilà.
Et les non-dits, Et ça va permettre, on va dire, c'est pas un happy end, mais de rétablir en fait une sorte d'harmonie qui n'existait pas au début de l'histoire. Voilà.
Il va y avoir un apaisement, mais on dira pas ce qui s'est passé pour que après il y ait apaisement justement.
Voilà, mais ça passe par la reconnaissance de l'histoire des femmes et de la place des femmes aussi dans la famille de Mima Ounessa, et je crois aussi un petit peu dans l'histoire du Maghreb.
Bien sûr.
Où en fait les femmes sont très importantes. Faut quand même se rappeler que c'est quand même la Kaïna qui est notre figure centrale en Algérie, mais voilà, aujourd'hui on sait que les femmes sont importantes, mais on leur reconnaît pas cette place centrale en fait.
Eh ben voilà une belle histoire, un Noël chez les Zemmouris. Merci Sabrina Cassa d'être venue nous le présenter.
Merci.
Ce livre, Un Noël chez les Zemmouris, je le rappelle, il a paru aux éditions Emmanuel Colas. Si je vous dis Douce France, c'est ce qu'aurait voulu la famille Zemmoury. On va écouter dans un instant Rachita.
Ah ben Rachita,
avec une version que
j'adore,
très audacieuse de ce Douce France de Trenet.
Oui, bah c'est vraiment la bande son de ma jeunesse. Je parle très mal l'arabe. Je comprends l'arabe quand ma mère me le parle, mais moi-même je parle très mal. Et j'ai chantonné et voilà. Je l'ai dans l'oreille, dans le cœur, et je crois qu'il est vraiment. Oui, c'est un beau symbole pour cette jeunesse, enfin pour cette génération franco-algérienne.
Douce France, c'est avec ce morceau qu'on se quitte, mais Douce France, on peut le retrouver dans le cadre d'une exposition qui porte ce titre-là, d'ailleurs Douce France, qui est au Conservatoire National des Arts et Métiers, c'est 60 rue Réaumur à Paris, dans le 2e arrondissement, au métro Arts et Métiers, et c'est vraiment une très très belle exposition sur cette histoire de l'immigration algérienne en France, avec comme figure symbolique, effectivement, Rachita, et je pense que la famille Zemmoury a sa place dans cette exposition. Merci encore Sabrina d'être venue ce dimanche matin à Beur FM nous la raconter, cette histoire de la famille Zemmoury, Un Noël chez les Zemmoury, qui vient de paraître aux éditions Emmanuel Colas. Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardée dans mon cœur. Au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Yeah.
retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.